Je vais présenter maintenant Jean Weissenbach. Jean Weissenbach est généticien. Il est né en 1946 à Strasbourg. Il est directeur de recherche au CNRS. Il est d'ailleurs au CNRS depuis 1970. Il est directeur du Génoscope, Centre national du séquençage, depuis 1997. Il a dirigé plusieurs laboratoires associés au CNRS, ainsi qu'une unité de recherche de l'Institut Pasteur. Il a été responsable du programme de la carte génétique de l'homme à Généton et directeur scientifique de Généton de 1993 à 1997. Et depuis 1997, il dirige le Centre national du séquençage, le Génoscope, et son groupe contribue au séquençage des grands génomes et est engagé dans le séquençage de génomes de micro-organismes. Jean Weissenbach a publié plus de 400 articles dans des revues nationales et internationales spécialisées. Il est également membre du comité éditorial de revues scientifiques, de très nombreuses revues scientifiques. Il est également membre de nombreuses associations et de nombreux comités. Il est président du comité scientifique de l'Institut Max Planck de génétique moléculaire de Berlin. Et il a reçu de nombreux prix et décorations, j'en citerai un. En 1994, il a reçu la médaille d'argent du CNRS. Jean Weissenbach, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci. Donc, on m'a demandé de faire cette conférence. En fait, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ce dont je vais parler ce soir, mais je crois qu'en outre, il n'y a plus de spécialiste de ce dont je vais parler ce soir, puisque on m'a essentiellement demandé de replanter le décor sur les conférences qui vont suivre, qui vont parler de la vie et de la diversité. Et donc, celle-ci va se focaliser sur les prémices de tout ça. Et je l'ai intitulée Vivant et information. Donc je vais être obligé de commencer par définir ce qu'est le vivant, ce qui est une chose quasi impossible. Et si vous êtes intéressé par la question, en fait, dans les livres de l'Université de tous les savoirs dont il a été fait état tout à l'heure, il y a plusieurs articles, notamment un article de François Jacob, un autre d'Antoine Danchin, qui traite de cette question et qui en fait arrive un peu à la même conclusion que celle que je viens déjà de donner, qui est de dire que la définition du vivant est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc plutôt que de définir le vivant, je vais peut-être commencer par définir ce qui n'est pas vivant. Et je vais me placer dans une situation très théorique et qui est la suivante. Vous avez sur l'écran ici des successions de lettres. En fait, chacune de ces lettres symbolise un composé chimique. Ça n'a aucune importance de savoir quel est ce composé chimique. C'est-à-dire, c'est des composés qui sont parfaitement hypothétiques, parfaitement imaginaires, des composés virtuels, dirons-nous. Et dans un système qui n'est pas vivant, eh bien, globalement, il ne se passe rien. Lorsqu'on est par exemple sur la Lune, il y a plein de produits chimiques sur la Lune. Ces produits ne réagissent pas les uns avec les autres parce que les réactions qui auraient pu avoir lieu ont eu lieu depuis très longtemps. Ce sont des réactions essentiellement de chimie minérale. Par contre, les quelques composés organiques qui traînent sur la Lune, eux, ne réagissent pas entre eux. Il ne se passe strictement rien. Et donc, l'évolution d'un tel système, est bien sûr parfaitement conforme à la loi de Lavoisier, qui est de dire que rien ne se perd, rien ne se crée, donc tout ce qui est présent avant est encore présent après. Donc ça nous permet de dire que ce système-là, lui, n'est pas vivant. Et lorsqu'on se place maintenant dans une autre situation, qui est peut-être celle, ou qui ressemblerait à celle qu'on imagine s'être présentée à l'époque de l'origine de la vie sur Terre, c'est-à-dire peut-être il y a quelques 4 milliards d'années. À cette époque-là, on pense qu'il existait toute une série de composants organiques présents en solution. Alors vous avez ici ces composés organiques qui encore sont symbolisés par des choses parfaitement fantaisistes. Et on a beaucoup parlé de soupe primordial. Alors je voudrais surtout pas que vous fassiez l'analogie entre cette représentation-là et disons une soupe avec des vermicelles lustucrues où vous auriez ces lettres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est d'autant moins la même chose qu'ici, vous avez des composés chimiques qui, de temps en temps, vont être capables de réagir. Vous voyez, le N et le K en rouge ont établi une liaison chimique. Et ça, vous pouvez essayer avec des vermicelles, je vous garantis, ça ne marche pas. Donc, de temps en temps, se produit dans cette soupe primordiale des réactions qui permettent à des composés de se lier les uns aux autres par une liaison covalente. Et ceci se produit dans des cas assez rares. Et dans des cas encore beaucoup plus rares, on peut noter la constitution de composés plus importants. Ici, vous avez, une molécule avec quatre composants primordiaux qui s'est formée. Et c'est là que les choses basculent, c'est là que tout d'un coup, un espèce de miracle s'est produit, parce que ce composé XLRB, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé XLRB, parce que finalement c'est très difficile à prononcer, j'aurais mieux fait de prendre d'autres lettres. En tous les cas, le XLRB en question, lorsqu'on l'ajoute à un mélange de B, de L, de R et de X, eh bien, on observe la fabrication en masse de XLRB. Donc, cette molécule XLRB a une propriété qui est, en fait, d'arriver à catalyser la formation de copies d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui est, parfaitement miraculeux, et c'est quelque chose qui nous rapproche maintenant de ce qu'on pense être la vie. Alors, encore une fois, si on mélangeait X et L tout seul, eh bien, X et L tout seul ne réagiraient pratiquement pas, et au bout d'un temps extrêmement long, on aurait toujours du X et du L dans notre solution. Si maintenant, on rajoute du XLRB à notre X et L, il va faire du XL. Si on rajoute du R, on fera du XLR. Si on rajoute encore du B, on fera de nouveau du XLRB. Et donc, on peut penser, on a finalement affaire à un espèce de catalyseur chimique. On a effectivement affaire à un catalyseur, mais quand même, on ne se trouve pas exactement dans la situation d'un catalyseur. Alors, ce qu'on peut penser, c'est puisque ce XLRB est capable de coller les composants les uns aux autres, on peut penser que ces composants ont ce qu'on appelle des fonctions chimiques, c'est-à-dire des groupements chimiques communs, et que le fameux XLRB va être en mesure de faire réagir ces différentes fonctions chimiques. Alors, les fonctions chimiques en question, je les ai représentées par des anneaux. Donc, il y a un anneau rouge et un anneau bleu qui sont partie de mon X. Et sur du L, par exemple, on va retrouver exactement les mêmes fonctions chimiques symbolisées par ces anneaux rouges et bleus. Et ce qu'XLRB est capable de faire, c'est de faire réagir un anneau rouge avec un anneau bleu de manière à ce que X et L s'associent, encore une fois, par une liaison chimique covalente. Et si maintenant, je suppose qu'il y a des chimistes dans la salle, donc pour faire plaisir aux chimistes, je vais bien sûr équilibrer ma réaction, puisque j'ai perdu deux moitiés d'anneau, il faut que je les retrouve quelque part, et par exemple, je peux les retrouver sous la forme d'un autre anneau. Alors ça, effectivement, on peut penser qu'un composé chimique, un catalyseur chimique, pardon, classique, pourrait faire ceci. Et effectivement, si on mélange du X et du L, qui sont donc des composés avec des groupements réactifs rouge et bleu ensemble, et qu'on dispose de catalyseurs capables de faire réagir ces fonctions rouge et bleu entre elles, on va effectivement obtenir du XL. Mais, tout bon chimiste vous dira, mais puisqu'on peut faire réagir un anneau rouge avec un anneau bleu, on doit aussi obtenir du LX, on devrait aussi obtenir du XX, on devrait aussi obtenir du LL, et on peut même aller plus loin, si on a beaucoup de X et beaucoup de L, on va avoir des chaînes de X et de L qui vont se former avec le catalyseur. Et ça, avec un catalyseur chimique normal, on va aboutir à ça, on va aboutir à un polymère de X et de L de très longue chaîne. Et effectivement, on peut très bien imaginer ça. Toujours avec un catalyseur classique, si on remplace notre L par un autre composant avec les mêmes fonctions, on va refaire la même chose, et ainsi de suite. Donc, Ça, c'est ce que pourrait nous faire faire un catalyseur classique, mais je vous rappelle qu'avec XLRB, ce n'est pas ça qu'on observe. Avec XLRB, ce qu'on observe, c'est qu'il ne fabrique que du XLRB et rien d'autre. Autrement dit, XLRB possède une espèce de plan de fabrication qui est partie intégrante de sa structure, qui lui permet de refaire la structure XLRB de manière, de manière indéfinie, tant qu'il y aura ces fameux réactifs X, L, R et B dans le milieu. Et on a là pratiquement un espèce de système qu'on peut considérer comme un système vivant. Un système vivant étant un système qui est capable de se recréer à partir des composants du milieu, qui sont en l'occurrence XLRB. Et on parle là de la propriété d'autopoïèse, c'est-à-dire la propriété de se recréer soi-même. Et pour réaliser cet objectif, ce système vivant dispose donc de deux propriétés particulières. D'une part, il dispose de fonctions qui lui permettent de se reconstruire. On va parler d'informations opérationnelles. On est là en train d'introduire cette deuxième notion qui est celle de l'information. En fait, je ne vais pas non plus définir ce qu'est l'information, mais je vous dirais que finalement, l'information a pour résultat d'induire un système à faire quelque chose de bien défini. Et nous-mêmes, lorsque nous recevons de l'information, eh bien, nous ne faisons plus n'importe quoi. Par exemple, lorsqu'un actionnaire apprend que les comptes de la société Enron sont plombés, il va s'empresser de vendre ses actions de la société Enron et il n'en achètera plus. Donc c'est quelqu'un qui est informé sur ce problème-là. Ici, la même chose, l'information de XLRB va permettre aux composants du système, c'est-à-dire à X, à L, à R et à B, de se réunir ensemble. Et deuxième type d'information que renferme cette molécule, à part ses propriétés catalytiques qui lui permettent de refaire du XLRB, la molécule en question comporte son propre plan de fabrication. Et un système vivant renferme ces deux types de fonctions. Et si il dispose de ces deux types de fonctions, en théorie, il peut effectivement être ce qu'on appelle vivant, c'est-à-dire, encore une fois, à partir de déconstituants du milieu, se reproduire. Alors vous me direz, si la vie c'est ça, je ne sais pas si elle vaut la peine d'être vécue, moi non plus, mais en fait la vraie vie est peut-être quand même un tout petit peu plus compliquée que ça. Mais on a là, je dirais, une représentation théorique de ce qu'on pourrait qualifier de phénomène vital, et c'est un peu ce genre d'activité chimique que les savants qui envoient des navettes sur d'autres planètes essayent de retrouver. Donc c'est des activités chimiques qu'on essaye de retrouver pour essayer de savoir s'il y a de la vie sur d'autres planètes. Alors maintenant, on va un peu basculer et on va retourner sur, disons, le vrai vivant, celui que nous connaissons. Et je vais essayer de vous montrer qu'en fait, ce dont je parlais, c'est-à-dire toutes ces activités chimiques, toutes ces notions d'information, en fait, sont des notions qui sont élaborées progressivement, et c'est progressivement qu'on s'est rendu compte que la vie, elle avait quand même beaucoup à voir avec la chimie. Et on peut remonter en fait au père de la chimie, on peut remonter à Antoine Lavoisier, qui a été le premier à remarquer que finalement, les organismes qui respirent fabriquent du gaz carbonique et donc font une combustion. Donc il y a une activité chimique manifestement dans les organismes vivants. Et puis, vous savez qu'à cette époque, on avait, disons, une frontière très nette entre ce qu'on appelait la chimie organique et la chimie minérale. La chimie organique était quelque chose qu'on considérait comme uniquement, les composés organiques étaient uniquement, fabriquables, synthétisables par le vivant et pas du tout par la chimie. Et Friedrich Wöhler, dès le relatif début du XIXe siècle, a pu réaliser la synthèse de l'urée. C'est la première synthèse d'une molécule organique. Vous voyez que ça remonte quand même déjà à pas mal d'années. Et ça a, disons, cassé une première barrière. Il n'y a plus vraiment, à ce moment-là, de barrière entre l'organique qu'on considérait comme caractéristique du vivant et le minéral. Et ça, ça a été, à l'époque, bien sûr, une grosse révolution dans les idées. Et puis, bien sûr, d'autres connaissances se sont accumulées. En fait, les idées, ça ne vient jamais, disons, d'une seule expérience clé. C'est toujours, disons, tout un ensemble d'indices qui convergent. À peu près à la même époque, Payen et Perzos ont montré que l'amidon était dégradé, là aussi, par une activité catalytique qu'ils appelaient une diastase et que ceci pouvait se dégrader sous forme de sucre. Donc ça, l'amidon, c'est une molécule extrêmement complexe. Cette diastase, bien sûr, c'est un espèce de catalyseur qu'on était à l'époque absolument incapable de caractériser, mais on voyait que cette réaction pouvait avoir lieu. Et c'est aussi à peu près à la même époque que deux savants allemands, Schleiden et Schwann, ont élaboré la théorie cellulaire de la vie et ont proposé que les cellules sont en fait les unités qui sont fondamentales de tous les systèmes vivants. Et cette notion, bien sûr, de cellule est extrêmement importante. Si on se réfère au système dont je parlais tout à l'heure, c'était un système acellulaire. Et bien sûr, lorsqu'on est dans un système acellulaire, eh bien, on a de fortes chances que ce système n'arrive pas à se perpétuer. La cellule procure une protection, permet à l'ensemble des activités chimiques de se dérouler dans un univers clos et de cette manière de se protéger de l'extérieur et de se, en fait aussi, de procurer un environnement optimal à l'ensemble des réactions chimiques qui vont se dérouler dans cette cellule. Toujours le même Schwann, toujours à la même époque, vers disons la fin des années 30, 1830, a suggéré que la fermentation des sucres qu'on observait avec la levure était un phénomène de nature biologique et que la levure était un organisme vivant qui était capable de transformer les sucres en alcool et en gaz carbonique. Et ça a été très mal accueilli à cette époque-là. Des chimistes extrêmement réputés en Allemagne, des gens comme Liebig, des gens comme Berzelius, des gens comme Wöhler, dont on a parlé tout à l'heure, ont dit, mais ça, c'est pas possible, la levure n'est pas quelque chose de vivant, la levure fabrique effectivement, transforme le sucre en autre composé, mais la levure n'est certainement pas un organisme vivant. Et donc, il y a eu tout un débat, toute une polémique. Pasteur a beaucoup contribué à éclaircir le débat, notamment en travaillant justement sur des micro-organismes qui eux aussi étaient capables de faire des fermentations. Et progressivement, disons, les gens ont commencé à admettre qu'effectivement, finalement, après tout, le vivant était peut-être capable de catalyser des réactions chimiques. À peu près à la même époque, Gregor Mendel, et alors là, on se retrouve maintenant tout à fait dans l'autre versant, qui est celui de l'information, Gregor Mendel découvre les lois de la transmission des caractères héréditaires. Manque de chance pour lui. Il a publié ça dans une revue, disons, assez obscure, dans un journal local à Brno, qui était la ville où était son monastère. Et ce journal local était relativement peu lu. Mais aussi, on peut penser que finalement, les esprits n'étaient pas tout à fait prêts à accueillir les résultats de Gregor Mendel. Et lorsqu'on continue à s'approcher du XXe siècle, on doit mentionner Édouard Büchner, qui lui, cette fois-ci, alors qu'à l'époque il était déjà parfaitement admis que la levure était quelque chose de vivant, il a été capable de reproduire de la fermentation, cette fois-ci, avec un extrait acellulaire de levure, c'est-à-dire il a extrait les composants des cellules de levure en cassant les cellules, et il a pu montrer qu'en extrayant ces composants, eh bien, on arrivait de nouveau à refaire cette fermentation. Et ça aussi, ça a été donc quelque chose d'important, quelque chose qui a permis de dire, bah, finalement, il y a toute une série d'activités chimiques dans une cellule vivante. Et très peu de temps après, on redécouvre les lois de Mendel et on les redécouvre simultanément à différents, par, ça a été fait par différents savants à l'époque, et à ce moment-là, ça a passé bien sûr beaucoup mieux. Et puis, à partir de là, à partir de, du début du XXe siècle, les choses s'accélèrent. Dès 1901, De Vries, qui était un de ces redécouvreurs des lois de Mendel, propose que il se produit des mutations qui se transmettent exactement, elles aussi, selon ces lois de Mendel. Et on va revenir, bien sûr, tout à l'heure sur cette notion de mutation. À la même époque, ou un peu plus tard, Johansen introduit le terme de gène, alors que la notion, elle existait déjà. On parlait de facteurs, et puis il a dit, ben, finalement, les facteurs en question, on va les appeler des gènes, tout simplement. Et un médecin anglais, Garrow, a lui aussi proposé, dès cette époque-là, que finalement, un certain nombre de maladies héréditaires, qui sont des maladies du métabolisme, comme, disons, l'alcaptonurie, qui est une maladie du métabolisme d'un aminoacide, il a aussi proposé ça pour d'autres maladies, Garrow a dit que finalement, il existait chez certains individus des défauts innés de la capacité à transformer un certain nombre de composés chimiques et que ces défauts étaient héritables de génération en génération. Et ça aussi, ça a été un élément important. Peut-être même que Garrow aurait pu pousser le raisonnement plus loin et aurait pu, disons, avancer dans les notions dont je vais parler tout de suite. À cette époque-là aussi, on commence à utiliser la drosophile comme modèle d'étude, cette drosophile qui a vraiment, permis d'établir complètement toutes les propriétés de la génétique formelle, et en particulier qui a permis d'établir la fameuse théorie chromosomique de l'hérédité, selon laquelle ce sont les fameux gènes dont on vient de parler, ces fameux gènes, en fait, sont portés par les chromosomes. Donc ça, ça remonte à 1915, c'est l'école de Morgan, de Tom and Morgan, qui a à ce moment-là conclu de ses expériences de génétique sur la drosophile que les gènes devaient se succéder les uns les autres dans un ordre parfaitement précis le long des chromosomes. Le siècle continue, nous passons en 1926, et à ce moment-là, Sommer montre que les enzymes, ces fameux catalyseurs de tout un tas de réactions biochimiques dans les cellules vivantes, eh bien que ces enzymes sont des protéines, c'est-à-dire un constituant particulièrement important et qui allait être étudié de plus en plus par la suite. À peu près vers la même époque, Griffith, tout à fait dans un autre domaine, propose que il fait une expérience, c'est-à-dire il dispose de deux souches de pneumocoque. Le pneumocoque est une bactérie pathogène qui est capable de tuer les organismes qu'elle infecte. Donc il fait des expériences sur des souris, il dispose de deux souches, une souche qui est capable de tuer les souris, et une autre souche qui, elle, est incapable de tuer les bactéries. Alors, ce qu'il fait, il extrait, à partir des souches tueuses, il les lise, il s'assure que cette souche ne peut plus pousser, donc il tue les cellules de la souche tueuse, et il en fabrique un extrait, et cet extrait, il va le mélanger avec la souche qui n'est pas pathogène, la souche qui ne tue pas, et il va réinjecter ceci à des souris, et il va s'apercevoir que ces souris meurent, et lorsqu'il prélève, après la mort des souris, il prélève des pneumocoques sur ces souris qui ont été tuées, il s'aperçoit que ces pneumocoques ont récupéré le caractère pathogène, le caractère tueur. Et donc, il a identifié, sans savoir ce qu'il y avait dedans, ce qu'on appelle le principe transformant, c'est-à-dire une substance dans un mélange bien sûr extrêmement complexe, une substance qui était capable de reconférer à des bactéries qui avaient perdu cette pathogénicité, donc de reconférer cette pathogénicité à ces bactéries. Et ça, ça a été bien sûr un tournant décisif, mais là encore, Griffiths lui aussi a publié dans des revues qui n'étaient pas très lues, et surtout qui n'étaient pas lues par la communauté qui aurait été, la partie de la communauté scientifique qui aurait été capable de comprendre de quoi il parlait. Un peu plus tard, au début de la guerre, Biddel et Tatum, on a déjà vu tout à l'heure que les enzymes étaient des protéines, et là, vers le début des années 40, on se rend compte qu'on peut établir une correspondance entre ce qu'est un gène et ce qu'est un enzyme. Alors, par un processus, disons, par un raisonnement assez compliqué, sur lequel on ne reviendra pas, mais en tous les cas, ils ont conclu que finalement, l'information que renferme un gène, c'est celle qui doit permettre de fabriquer un enzyme. Et ça aussi, c'est une notion extrêmement importante. Et à ce moment-là, on savait que les chromosomes étaient constitués en fait de protéines et d'acides nucléiques. Et le gros débat, puisque les chromosomes étaient porteurs de l'hérédité, le gros débat portait alors sur est-ce que ce sont les acides nucléiques ou est-ce que ce sont les protéines qui sont les vecteurs, qui sont les supports de l'hérédité. Et en 1944, Avery, MacLeod et McCarthy reprennent les expériences de Griffith, donc cette fameuse expérience de transformation du pneumocoque, et à ce moment-là, ils travaillent sur ce principe transformant, ils essayent de le purifier, et en tous les cas, ils arrivent à montrer que ce ne sont pas les protéines qui sont contenues dans ce principe transformant qui sont capables de conférer de nouvelles propriétés génétiques au pneumocoque, ils sont capables de transformer génétiquement le pneumocoque, c'est une autre substance dans ce principe, c'est l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, qui lui est capable de faire ça. Donc ils font ça par, disons, une série de preuves indirectes, c'est-à-dire que soit ils détruisent les protéines, soit ils détruisent l'ADN. Lorsqu'ils détruisent les protéines, il ne se passe rien. Lorsqu'ils détruisent l'ADN, ils s'aperçoivent que le principe transformant perd ses propriétés. Donc, grâce à ça, finalement, on arrive à établir, vers, disons, la fin de la guerre, que l'ADN est le support de l'hérédité. Et alors là, évidemment, se pose toute une question, mais cet ADN, finalement, comment peut-il être le support de l'hérédité? On savait chimiquement comment était constitué l'ADN, qu'il était constitué de 4 composants, et alors que les protéines étaient composées de 20 composants, de 20 aminoacides, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi on pensait que c'était en fait les protéines qui devaient être les supports de l'hérédité, et qu'on a été très surpris de constater qu'en fait c'était une molécule qui, sur le plan chimique, était beaucoup moins complexe, qui était ce support de l'hérédité. Alors, à ce moment-là, on se pose bien sûr la question, mais comment cet ADN peut-il être le support de toute cette information? Comment peut-il renfermer ce fameux plan de fabrication d'êtres vivants dont nous avons parlé tout à l'heure? Et les progrès sont venus une dizaine d'années après, avec la découverte par Watson et Crick l'établissement de la structure tridimensionnelle de la molécule d'ADN. Alors, tout le monde a entendu parler de cette fameuse structure tridimensionnelle. Donc ici est représentée cette fameuse double hélice. Donc l'ADN est constitué de 2 hélices qui s'enroulent l'une autour de l'autre. Chaque hélice est constituée donc de l'enchaînement des 4 constituants dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont on appelle des nucléosides. On parle de bases aussi. Les bases sont en fait qu'une partie des nucléosides, mais enfin, on va pas faire de chimie ici, ce n'est pas du tout l'objet. Donc, il y a ces constituants alimentaires, s'enchaînent les uns aux autres et s'associent les uns aux autres selon des règles parfaitement établies. Lorsque vous avez sur une chaîne un résidu C, c'est-à-dire une cytosine, en face, vous aurez un résidu G. Lorsque vous avez un résidu A, en face, vous aurez un résidu T. Et ceci, toujours. Et sur toute la molécule, on va retrouver ça. Et ça, c'est une propriété qui, comme vous allez voir, qui est absolument fondamentale pour le vivant. Donc, l'ADN est constitué donc, de cette double hélice, donc de ces 2 hélices qui s'associent l'une à l'autre par des liaisons qui ne sont pas des liaisons covalentes cette fois-ci, mais des liaisons relativement, enfin qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Donc, et par ces liaisons hydrogènes, on aura toujours, le long de la double hélice, un C en face d'un G, un T en face d'un A, et ainsi de suite. Et on représente ça tout simplement par une succession de lettres, comme ici, où vous avez sur un brin cette succession-là, et sur l'autre brin, l'autre succession. Et lorsque vous connaissez la structure d'un des brins, en fait, vous pouvez en déduire, selon les règles que je viens d'énoncer, vous pouvez en déduire la structure de l'autre. Si vous avez ici un A, vous savez qu'ici vous avez un T. Si vous savez que vous avez un G, vous avez un C ici, et ainsi de suite. Donc, c'est une molécule qui a donc des propriétés extrêmement importantes, et on voit que lorsqu'on connaît un des brins, eh bien, on connaît l'autre brin. Et dès cette époque, dès 1953, Crick, un des deux donc co-découvreurs de la structure tridimensionnelle de l'ADN, a immédiatement proposé la chose suivante, c'est qu'en fait, ce qui devait se passer lors de la division des cellules, c'est la chose suivante, cette molécule, ce double brin, cette double hélice, doit se dissocier, et puis on doit avoir, à ce moment-là, une machinerie enzymatique qui va recopier chacun de ces brins, reconstituer un double brin exactement selon les mêmes règles que ceux qu'on avait initialement, c'est-à-dire qu'en face d'un T va se mettre un A, en face d'un G va se mettre un C, et ainsi de suite. Et c'est effectivement ce qui se produit. Et ce qui se produit, bien sûr, pour un brin, va se produire exactement de la même façon pour l'autre brin. Donc, en fait, lorsque la molécule se divise en deux, elle va reconstituer deux molécules strictement identiques à la molécule de départ, tout simplement parce que chacune contient l'information de la molécule complémentaire. Et ça, c'est la propriété vraiment fondamentale du vivant, c'est que le plan de fabrication va se reproduire de cette manière-là à l'identique. Alors bien sûr, ça, pour ceux qui connaissent un peu la biochimie, ça ne peut pas se faire tout seul, ce n'est pas miraculeux. Il faut des produits chimiques qui sont des précurseurs, il faut un enzyme, en fait il en faut même plus qu'un, qu'on appelle l'ADN polymérase, mais cet ADN polymérase, c'est celui qui fait, disons, cette réaction absolument essentielle. Et ce processus est celui qu'on appelle la réplication de l'ADN. On parle aussi d'activité autocatalytique de l'ADN, c'est-à-dire qu'il est capable de rediriger sa propre synthèse. Mais en fait, il est juste dépositaire du plan de formation de la molécule complémentaire, parce que c'est l'ADN polymérase qui est capable de faire la synthèse. Mais l'ADN polymérase à elle toute seule n'est pas capable de faire la synthèse, puisque le plan de construction, enfin le plan de formation de l'ADN, lui, est contenu dans l'autre brin complémentaire. Et puis cet ADN, non seulement donc, il est capable de se répliquer, mais il est aussi capable d'envoyer de l'information dans le reste de la cellule. Et comment est-ce qu'il va envoyer cette information ? Toujours en utilisant cette même propriété, on va recopier, et ça aussi Francis Crick l'avait prévu, on va recopier un des brins sous forme d'une autre molécule qui cette fois-ci ressemble beaucoup à cette molécule d'ADN. La molécule bleue ressemble beaucoup à la molécule noire. On a toujours cette même association T en face de A, C en face de G, mais il se trouve que dans l'ARN, au lieu d'avoir du T, on a du U. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc dans la molécule bleue, vous ne trouverez pas de T, vous trouverez que du U. Mais ceci ne change strictement rien à ces règles d'appariement. Et cette molécule bleue, qu'on appelle donc l'ARN messager, elle aussi, bien sûr, est faite à partir de précurseurs, elle aussi est faite à l'aide d'un enzyme, et là, par contre, il s'agit d'un complexe enzymatique beaucoup plus élaboré que ce que j'ai juste dit ici. Il y a des dizaines et des vingtaines de protéines qui vont contribuer au recopiage de cette molécule, tout simplement parce que lorsqu'on copie une molécule d'ADN en une molécule d'ARN, il y a des moments où il faut le faire, il y a des moments où il ne faut pas le faire, il y a des moments où on a besoin d'exprimer un gène, et il y a des moments où on n'en a pas besoin. Donc cet ARN messager, et ce processus s'appelle donc la transcription, cet ARN messager, lui, bien sûr, il lui-même n'est pas doué d'aucune activité opérationnelle, d'aucune activité catalytique, mais il renferme, encore une fois, le plan de fabrication. Donc il est une copie du plan de fabrication, et ce plan de fabrication va ensuite être utilisé par la cellule pour fabriquer une autre série de molécules, ici en vert,
Et cette autre série de molécules, cette fois-ci, ce sont les protéines. Et en fait, comme vous le voyez, ici, on avait trois lettres, et trois lettres de cet ARN messager correspondent en fait à une seule lettre, à un seul aminoacide, ils sont symbolisés eux aussi par des lettres, à un seul aminoacide de la protéine. Donc, chaque groupe de trois lettres va spécifier un aminoacide, et ceci, ce ne se fait pas tout seul, bien entendu. Il faut toute une machinerie de traduction qui existe dans les cellules. Cette machinerie de traduction comporte en particulier ce qu'on appelle des ribosomes, qui sont des particules extrêmement complexes, avec tout un tas de protéines qui les composent. Il faut aussi des aminoacides, il faut d'autres ARN, et puis il faut tout un tas d'autres choses que je n'ai pas mentionnées ici. Et ce processus-là est le processus de traduction, donc c'est celui qui va transformer le plan de fabrication d'une molécule, en particulier le plan de fabrication de cette molécule-là, qui est une protéine, en une succession d'aminoacides. Et cette succession d'aminoacides, elle-même, va prendre une conformation bien particulière dans la cellule, donc cette protéine va prendre une conformation tout à fait particulière dans la cellule, comme ceci. Là aussi, selon des règles qu'on commence à comprendre maintenant seulement, et sur lesquels, ma foi, je n'insisterai pas, mais en tous les cas, il se trouve que chaque fois qu'une protéine se synthétise, ou pratiquement chaque fois qu'une protéine se synthétise, elle prend une conformation particulière, toujours la même, et c'est parce qu'elle prend cette conformation particulière, en fait, qu'elle va être douée de propriétés, elles aussi particulières. Alors, tout à l'heure, on a dit que les enzymes, donc les catalyseurs chimiques, biochimiques qu'on trouve dans les cellules, sont des protéines. Eh bien, c'est certainement une des classes les plus importantes de protéines qu'on rencontre dans la cellule. Alors, comment marchent ces catalyseurs ? Là aussi, on va rester très simple. En fait, ces protéines renferment en général un site qui est capable de fixer une petite molécule, ici la petite molécule bleue, comme ceci. Et puis, une fois que cette molécule bleue est fixée, il va catalyser une réaction chimique. Alors ici, la réaction chimique qui est catalysée, c'est celle de la dégradation de la molécule bleue, et il va libérer deux sous-molécules, deux, disons, composants de la molécule bleue. Donc la molécule bleue aura été coupée en deux molécules plus petites. Ça, c'est une des possibilités. On pourrait exactement imaginer l'inverse. On pourrait imaginer un autre enzyme qui prend ces deux composés et puis est capable, lui, de les remettre ensemble. Donc il y a, là aussi, on peut imaginer toutes sortes de choses. Et comme il y a énormément de réactions chimiques qui vont se dérouler dans l'organisme, il va y avoir énormément de protéines qui seront chacune capables de catalyser une réaction ou un type de réaction et un seul et aucun autre. Ces protéines peuvent aussi, sont capables de s'associer. Bon, alors ça, ce n'est pas un tableau de Kandinsky, mais et c'est certainement même pas une association de protéines, c'est juste, disons, une représentation très symbolique de ces protéines qui peuvent s'associer les unes aux autres et constituer en fait des machineries extrêmement complexes. J'ai parlé tout à l'heure de ribosomes. Le ribosome est une machinerie extrêmement complexe qui, justement, joue un rôle absolument fondamental de la cellule, qui est celui de lui permettre de fabriquer d'autres protéines. Il existe tout un tas de ces machineries à l'intérieur de la cellule. Aujourd'hui encore, la plupart de ces machineries sont étudiées. Elles ne sont pas toutes. Le fonctionnement de toutes ces machineries est loin d'être complètement compris. Et beaucoup d'équipes sont, activement impliquées dans la compréhension de la manière dont ces machineries protéiques fonctionnent dans la cellule, la manière dont elles sont régulées, ce qu'elles font exactement et dans quelles conditions elles le font. Et ça occupe beaucoup de monde. Juste à titre d'exemple, on peut même aller un peu plus loin dans la sophistication d'une protéine. Ici, vous avez une protéine qui, elle, n'a pas un seul site, mais en a deux. Vous voyez, ici, il y a un site, mais comme vous voyez, le site en question n'a pas exactement la même forme, enfin n'est pas capable de recevoir cette molécule parfaitement carrée. Ici, vous êtes, c'est pas complètement carré, ça ne va pas rentrer dans le site. Et en fait, ce qui se passe, c'est lorsque cette deuxième molécule, ici en partie ronde, lorsque celle-ci va se placer dans ce deuxième site, on appelle ça un site de régulation, Lorsque cette deuxième petite molécule va se placer donc dans son site de régulation, ça va induire un changement de conformation sur l'ensemble de la protéine qui, à ce moment-là, va la rendre capable de recevoir cette petite molécule bleue et qui va être, à ce moment-là, capable de fonctionner. Et ça, c'est ce qu'on appelle les changements de conformation allostériques. On ne va pas insister là-dessus non plus. Les chercheurs français, là aussi, ont apporté une grande contribution dans les années 60 sur ce modèle-là, en particulier Jean-Pierre Changeux et Jacques Monod ont été parmi les théoriciens et les expérimentateurs à mettre ce processus extrêmement sophistiqué en évidence. Autre possibilité, qui est juste la possibilité inverse, la molécule, ici cette molécule rouge, qui est donc une molécule régulatrice, en absence de cette molécule, vous avez un autre enzyme qui, lui, serait capable, par exemple, de lier la molécule bleue. Par contre, dès que la molécule rouge, la molécule régulatrice, contacte l'enzyme, eh bien, cette enzyme change de conformation et devient incapable de se combiner à la molécule bleue. Donc là, on a exactement le schéma inverse de ce qui se passe au-dessus. Et tous ces cas de figure existent dans la cellule. C'est juste pour vous montrer un peu le degré de sophistication que peuvent avoir les protéines dans la cellule. Elles vont être, à tout instant, capables d'interagir avec les molécules en fonction de la composition en petites molécules de la cellule. C'est-à-dire qu'en fait, la cellule elle-même est une espèce de calculateur qui est capable qui va réagir en fonction des concentrations de ces petites molécules, donc qui est capable, du fait des interactions chimiques, d'établir une espèce de dosage de chacune de ces molécules. Elle va savoir combien il y en a, et s'il y en a beaucoup, ceci va se produire, et s'il y en a peu, ça ne va pas se produire, et ainsi de suite. Donc, à tout instant, la cellule recalcule les conditions dans lesquelles elle se trouve, aussi bien sur le plan intracellulaire que sur le plan extracellulaire, et elle va réagir en fonction de tous ces paramètres, et il y en a des milliers, et en fonction de tous ces paramètres, en fait, elle va avoir des réponses parfaitement appropriées à la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça, c'est véritablement miraculeux, et bien sûr, pour que ceci ait pu se mettre en place, il a fallu des millions et des milliards d'années d'évolution. Autre exemple, encore plus sophistiqué, ici, une molécule enzymatique combinant une petite molécule bleue. La molécule bleue est coupée en deux morceaux et un de ces petits morceaux, en fait, va servir de régulateur pour la grosse molécule. Donc le petit morceau va se placer ici dans le site régulateur, comme ceci, et à partir du moment où elle va se placer dans le site régulateur, eh bien, l'enzyme va cesser de fonctionner. Donc, le produit de l'enzyme va en fait contrôler l'activité de l'enzyme lui-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de rétro-inhibition. C'est un mécanisme très connu, justement, sur lequel ont travaillé Changeux et Monod et l'ont pratiquement mis en évidence. Et c'est un mécanisme extrêmement sophistiqué. Donc, la cellule sait mesurer ses constituants. Si ce constituant est en grosse quantité, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de dégrader le constituant de départ, et à ce moment-là, l'enzyme va perdre son activité. Alors, voilà comment ça doit se passer, et voilà comment ça se passe, d'une manière générale, mais lors de la réplication de l'ADN, parfois, se glisse une erreur. Ici, au lieu d'avoir un C en face de mon G, j'ai un T, ici le T vert, ici. Et donc, mon ADN polymérase a fait une erreur. On peut l'excuser. Elle travaille à une vitesse absolument folle, beaucoup plus vite que ce que vous avez vu sur cet ordinateur. De temps en temps, ces erreurs se produisent. Alors, ces erreurs ont, d'une manière très générale, des conséquences assez fâcheuses. Ici, on va... Ah, j'ai oublié de faire l'intermédiaire, mais enfin, ce n'est pas très grave. Donc ici, on a l'ARN messager qui contient cette même erreur, cette même mutation. Et à partir de là, catastrophe en chaîne, la protéine qui va être synthétisée, elle aussi, va renfermer une mutation. Et assez fréquemment, lorsque ceci se produit, eh bien, au lieu de synthétiser cette belle protéine verte bien avec une belle conformation et qui a certainement un site actif et capable d'avoir une activité enzymatique, on va retrouver quelque chose de tout à fait ratatiné, comme ça. Et cette molécule-là n'a aucune activité. Donc, ce qui devrait se produire, comme c'est marqué ici, en fait, ce qu'on va avoir, on va avoir un enzyme incapable de se lier à son substrat. Ce substrat va s'accumuler dans la cellule et il va s'accumuler de plus en plus. Et ça peut avoir, bien sûr, des conséquences catastrophiques pour la cellule. Ça peut tout dérégler. Et sans doute, cette cellule va très mal s'en sortir. Et alors, vous me direz, mais lorsqu'on revient à notre système de départ, le fameux XLRB qui était capable de fabriquer du XLRB, finalement, est-ce que ce système-là est vraiment viable? Alors, il serait viable, il est viable, disons, aussi longtemps que B, L, R et X seront présents en quantité suffisante. Mais on peut très bien imaginer qu'effectivement, à force de fabriquer, de se refabriquer, eh bien, XLRB épuise les constituants de départ dans le milieu dans lequel il se trouve. Et alors là, évidemment, on va être placé devant une situation extrêmement difficile parce que une fois que XLRB aura supprimer tous ses constituants de départ, il ne pourra pas continuer à se reproduire. Alors on pourra toujours imaginer, bien sûr, une situation d'équilibre dans laquelle les XLRB eux-mêmes pourraient être dégradés et on aura à ce moment-là à la fois les réactions se produisant dans les deux sens. Et d'ailleurs, la vie sur Terre est finalement un ensemble de cycles et de systèmes équilibrés qui s'équilibrent les uns les autres. C'est comme ça que la Terre a une certaine stabilité. Ce système-là, finalement, juste faire du XLRB, ça ne va pas le faire avancer beaucoup. Et on a vu tout à l'heure ici des mutations. En fait, ces mutations que nous avons vues là, parfois, elles peuvent avoir des effets bénéfiques. Et si ces mutations peuvent avoir des effets bénéfiques, en fait, notre XLRB va pouvoir, à partir d'une mutation, fabriquer autre chose que du XLRB et ainsi va pouvoir évoluer. Et on voit donc là qu'il y a un rapport très étroit entre cette notion de mutation et la notion d'évolution. En fait, le système vivant que nous connaissons est capable d'évoluer tout simplement parce qu'il produit des erreurs et que ce n'est pas un système parfait. Si c'était un système parfait, il serait toujours le même, complètement fixe. Rien ne changerait. Par contre, la vie, elle, fort heureusement, fait peu d'erreurs. La plupart de ces erreurs sont effectivement extrêmement néfastes pour la cellule, mais de temps en temps, une erreur peut être bénéfique. Et à partir d'une erreur bénéfique, eh bien, la cellule va pouvoir progresser. L'organisme va pouvoir progresser, la vie va pouvoir progresser. Et c'est parce que nous sommes imparfaits, en fait, et parce que ces processus sont imparfaits, que la vie a été capable d'évoluer à partir de systèmes très simples pour donner des systèmes aussi sophistiqués que ceux que nous sommes aujourd'hui. Alors, j'ai presque fini. Je vais peut-être un tout petit peu donner quelques informations sur ce qu'on essaye aujourd'hui de faire dans un domaine relativement proche. Donc, je vous ai parlé de protéines, je vous ai parlé de gènes. Depuis quelques années, on est capable maintenant de faire l'inventaire de tous les gènes d'un organisme, tout simplement parce qu'on est capable de reconstituer la séquence chimique de l'ADN de ces organismes. Et à partir de là, on est capable, avec des programmes d'ordinateur, de retrouver sur cette séquence d'ADN les séquences des protéines. Et on fait ça pour tout un tas d'organismes. Donc, on a fait ça, disons, en ce qui concerne les organismes les plus évolués, ici l'humain, ici la mouche du vinaigre, ici un ver qui s'appelle Caenorhabditis, la levure, et puis une plante qui est la rabette. Et on a pu ainsi faire l'inventaire du nombre de gènes qu'on a trouvés dans ces différents organismes. Et vous voyez, par exemple, l'inventaire du nombre de gènes humains, à peu près 30 000. Cet inventaire, parfois, il est mis en question, mais on n'a pas vraiment de raison de penser que ce nombre va beaucoup changer. Et vous voyez que finalement, on n'a pas beaucoup plus de gènes, donc pas beaucoup plus de fonctions qu'une mouche ou qu'un ver encore bien plus primitif que la mouche, un peu plus que la levure et à peine plus qu'une plante. Alors, bien sûr, ça pose un certain nombre de problèmes sur lesquels on ne va pas s'étendre. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que bon, tous ces gènes, toutes ces fonctions sont donc le résultat de millions d'années, de milliards d'années d'évolution, aujourd'hui encore, on ne connaît pas la fonction de la plupart de ces gènes et c'est à présent l'objet, disons, d'activités intenses de la part d'un grand nombre de chercheurs que d'essayer de comprendre à quoi correspondent, à quelle activité correspondent toutes ces protéines qui sont capables d'activités biologiques dans les cellules. Et je pense qu'on aura une image beaucoup plus cohérente et beaucoup plus complète d'ici quelques dizaines d'années, je dirais, sur la manière dont peut fonctionner un organisme aussi sophistiqué qu'un mammifère. Et, disons, c'est avec cette vision de ce qui nous attend que je vais m'arrêter et que je vais prendre des questions. Merci.
Sans donner une définition de la vie que vous avez confirmé être impossible, quelles sont les dimensions, les rapports de dimensions entre la plus petite cellule et le plus grand composé chimique ? Autrement dit, est-ce qu'il y a un gap de dimension entre le biologique et le chimique ?
Gap de dimension, c'est difficile parce que les molécules peuvent être... on peut les étirer, les allonger. Une molécule d'ADN, vous pouvez l'allonger, elle peut faire une molécule d'ADN, enfin, l'ensemble des chromosomes humains, si vous les mettez les uns au bout des autres en allongeant les molécules, vous arrivez à quelque chose qui fait 1m40, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une cellule. Par contre, elles sont, bien sûr, ces molécules sont compactées à l'intérieur des cellules. Et donc, il faut physiquement que vous arriviez à faire rentrer toutes les molécules dans une cellule, et ceci est possible justement parce qu'elles adoptent des conformations, elles adoptent des compactions qui leur permettent de fonctionner à l'intérieur d'une cellule.
Oui, je ne suis pas sûr que les explications actuelles soient des explications finales, peut-être que vous non plus. Je ne suis pas sûr non plus que l'ARN et l'ADN soient suffisants pour expliquer le vivant. Ce sont des caractéristiques des virus, et les virus ne sont pas ou pas encore des êtres vivants. Quand on prend les êtres vivants les plus rudimentaires, qui sont supposés être aussi les premiers, c'est-à-dire les microcellulaires, style archébactéries et posibactéries, on s'aperçoit qu'ils ont des compositions chimiques différentes, donc probablement dues à des conjugaisons macromoléculaires différentes. Donc il y aurait une hétérogénéité du vivant ou des vivants dès l'origine, ce qui ouvre une perspective très différente de celle qui justifie l'évolution, c'est-à-dire la conjugaison entre des êtres différents avant reproduction. Il me semble que cette voie-là, pour le moment, a été occultée par le fait qu'on a pris comme modèle des cellules déjà complexes et qu'en conséquence, il y a peut-être une carence logique qui permettra une toute autre voie d'approche du vivant façon de parler, puisque ce singulier est peut-être périmé.
Alors, vous mentionniez le fait que les archébactéries possèdent des constituants différents des autres cellules, en particulier des bactéries, c'est vrai, mais là encore, les différences portent sur un nombre de molécules relativement restreint, en particulier sur des constituants membranaires, et je pense que ça ne change strictement rien à ce qu'on pense du vivant. Alors, il est sûr que savoir ce qui s'est passé au début, personne n'est capable de le dire. Il est même aujourd'hui de plus en plus vraisemblable, encore que ce soit toujours discuté, et c'est bien que ça le soit, il est de plus en plus vraisemblable que les archébactéries représentent la forme la plus primitive du vivant, c'est-à-dire celle qui est apparue en premier. Je parle d'archébactéries et je pense qu'on a de bonnes raisons de penser que c'est surtout les archébactéries parce qu'on a beaucoup moins d'informations sur d'autres choses que sur les archébactéries. Et que les bactéries dérivent des archébactéries et que les cellules eucaryotes et les eucaryotes supérieurs, eux aussi, dérivent des archébactéries.
Donc si on peut dire que la vie est, je dirais, en général complexe et qu'elle s'est complexifiée depuis plusieurs milliards d'années, à quelle complexité supplémentaire on peut s'attendre, je dirais, dans 100 millions ou 200 millions d'années
Je ne sais pas. L'évolution est parfaitement imprédictible. Personne ne sait comment les choses vont évoluer. Si l'évolution était prédictible, on aurait pu la reconstituer depuis les origines. On ne sait pas faire ça.
Est-ce qu'on peut envisager, dans un temps historique relativement court, de pouvoir simuler de nombreux processus sur ordinateur?
Oui, alors pour l'instant, on est absolument incapable de faire ça parce qu'on ne sait pas comment fonctionne une cellule, sauf pour quelques, disons, voies métaboliques ou quelques systèmes bien particuliers. Mais la cellule elle-même, encore une fois, est une machine qui calcule à chaque instant ce qu'elle doit faire à partir de toutes les données qu'elle a, qui sont les concentrations de tous les constituants existants. Et puis en plus, bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a des interactions plus complexes que juste des interactions avec des métabolites. Mais disons, en faisant la somme de toutes les interactions moléculaires qui se déroulent à l'intérieur d'une cellule, qui se déroulent entre la cellule et ses voisines, entre la cellule et le milieu qui l'environne, etc., la cellule adopte une attitude qu'aujourd'hui on ne sait pas calculer, qu'on ne sait pas prévoir, mais le processus qu'utilise la cellule, on devrait un jour être capable de le décortiquer suffisamment précisément pour être capable de le reproduire sur un ordinateur.
Ce qui m'intéresse, c'est la frontière entre le vivant et le non-vivant. Est-ce que, par exemple, dire que l'apparition de la cellule constitue le début de la vie et qu'avant l'existence de la première cellule, il n'y avait pas encore de vie? C'est un point de vue.
Oui, c'est un point de vue. C'est très difficile à dire. C'est possible. On peut penser qu'il y avait déjà des activités chimiques qui étaient relativement proches de ce qui se passe dans une cellule. Mais on peut aussi penser qu'effectivement, ces activités chimiques devaient se dérouler dans des environnements protégés pour que les résultats de ces activités chimiques ne soient pas immédiatement détruits. Et donc, on peut penser qu'il a fallu très rapidement pour que le processus puisse se faire de façon satisfaisante et puisse évoluer, et en particulier puisse échapper, disons, au deuxième principe de la thermodynamique, encore que le deuxième principe de la thermodynamique reste bien sûr respecté, mais en tous les cas, la cellule se protège de son application stricte dans le milieu. On peut penser que assez rapidement, il a fallu avoir quelque chose qui ressemblait à une cellule. Mais c'est purement spéculatif, on n'en sait strictement rien.
Est-ce que la théorie commune à Monod et Jacob, qu'ils ont synthétisée dans le titre de leur livre « Le hasard et la nécessité », c'est-à-dire que les mutations se font toutes par hasard et elles survivent et se développent si elles survivent dans le milieu extérieur, et est-ce que c'est toujours le mécanisme de complexification de la vie fondamental?
Alors, le hasard et la nécessité, c'est Jacques Monod. Hein. François Jacob n'a pas, bien que, bien sûr, Monod et Jacob aient beaucoup parlé entre eux, le livre, c'est celui de Jacques Monod. Ce qui est écrit dans ce livre, d'ailleurs, lorsqu'on m'a demandé de faire cet exposé, je me suis dit, tiens, je vais me replonger dans le hasard et la nécessité. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, ce qui avait été dit début des années 70, je crois, ou fin des années 60, je ne sais plus, est toujours valide aujourd'hui. On n'a pas fait de progrès sur le plan de la théorie, on n'a pratiquement pas fait de progrès. Sur les plans conceptuels, on vit toujours exactement sur les concepts qui se sont élaborés au cours du XXe siècle, et en particulier dans cette période extrêmement féconde, disons, du milieu du XXe siècle. Depuis, on n'a pas véritablement fait de progrès de ce côté-là. Alors, il y a, bien sûr, on a appris des choses supplémentaires. Par exemple, on a les protéines elles-mêmes renferment beaucoup d'informations, et souvent cette information peut être absolument désastreuse. C'est le cas du prion, où le prion est une protéine qui adopte une conformation particulière, est capable d'induire un changement de conformation sur d'autres protéines qui sont des prions aussi, mais qui n'ont pas la même conformation. Et c'est juste cette conformation-là qui, en fait, est à l'origine, c'est ce changement de conformation qui est à l'origine de la pathologie, de l'encéphalite spongiforme bovine.
S'il vous plaît, comme nous avions dit, le virus n'est pas vivant, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire du virus quand on voit qu'il a une structure qui se rapproche quand même très fort d'un noyau de cellules? Est-ce qu'il serait l'équivalent d'un noyau de cellules qui chercherait ce qu'il faut pour devenir cellule?
Alors, un virus contient une information biologique. Et en rentrant dans une cellule, il va détourner les moyens de la cellule de manière à ce que l'information biologique qu'il contient soit propagée, multipliée à un très grand nombre de copies. Voilà ce que fait le virus. Mais lui-même, tout seul, sera incapable de se reproduire. Il lui faut une cellule. Il faut qu'il parasite la cellule. Donc c'est une espèce de parasite de cellule. C'est ça, le virus.
Jean Weissenbach, je vous remercie.